Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaragal de la nation Guringai, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Je m'appelle Grégory Pless, j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pendant une heure d'émission en français. Au menu du jour, comme tous les jeudis, on va faire le point sur l'actualité économique en Australie. Il sera question notamment des sanctions encourues par les leaders de la grande distribution, accusés de profiter de leur position dominante pour gonfler les prix à la caisse et dans le même temps de sous-payer les producteurs, en particulier les agriculteurs. Christophe Mallet nous présentera le magazine des sports et reviendra en détail sur le premier tour des quarts de finale en Ligue des Champions. On va aussi revenir sur le génocide rwandais avec Bertrand Tungandamé et la journaliste Michaela Wrong. Et pour finir, on ira au restaurant Philippe à Melbourne. Il est dirigé par Sonia Bichet, élue meilleure ouvrière de France dans le domaine de la poissonnerie. Mais plus frais encore que les poissons servis par Sonia Bichet, il y a l'actualité. C'est l'heure du journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 11 avril 2024, le Premier ministre Anthony Albanese confirme, après des propos tenus par sa ministre des Affaires étrangères plus tôt cette semaine, que son gouvernement réfléchit à la reconnaissance d'un État palestinien. À Bruxelles, hier, le Parlement européen a adopté un nouveau pacte sur l'asile et l'immigration. Enfin, en France, Emmanuel Macron doit se rendre aujourd'hui en Dordogne pour poser la première pierre d'une usine d'explosifs, mais également parler d'économie de guerre. Penny Wong, la ministre australienne des Affaires étrangères, a provoqué un séisme il y a quelques jours en suggérant que Canberra pourrait reconnaître un État palestinien, une démarche qui, selon elle, est la seule qui permettrait de mettre fin au cycle des violences au Proche-Orient. Une prise de parole qui, sans surprise, a immédiatement été critiquée par le leader de l'opposition, Peter Dutton, qui a estimé qu'un tel mouvement reviendrait à récompenser les leaders du Hamas suite aux attaques perpétrées le 7 octobre, au cours desquelles, rappelons-le, plus de 1200 personnes ont été tuées et 240 autres prises en otage. Mais la chef de la diplomatie australienne a reçu aujourd'hui le soutien de son premier ministre, Anthony Albanese, qui a confirmé que son gouvernement envisageait sérieusement de reconnaître la Palestine en tant qu'État à part entière. Ceci étant dit, il a expliqué sur Channel 7 que pour cela, il faudrait que le Hamas ne fasse pas partie du gouvernement d'un potentiel État palestinien.
Il doit y avoir une solution solution dans le Middle-East. C'est quelque chose qui a été en Australie, une longue-standing politique, et c'est quelque chose que j'ai été très consistant sur pour une longue période de temps. Mais Hamas ne peut pas jouer aucun rôle dans un futur État. And we've made that very clear.
Et puis, il y a quelques minutes, Anthony Albanese a prononcé depuis Brisbane un discours au cours duquel il a présenté un projet de loi baptisé « A Future Made in Australia », un futur fait en Australie, destiné à renforcer les investissements dans l'économie verte, notamment dans les énergies renouvelables, mais aussi l'extraction de métaux et de minerais nécessaires pour décarboner l'économie. En amont de ce discours, l'opposition a indiqué par la voix d'Angus Taylor sur Channel 9 qu'elle était favorable au principe d'une telle politique, mais qu'elle intervenait selon elle au mauvais moment, en l'occurrence en plein milieu d'une crise du pouvoir d'achat.
You don't beat a cost of living crisis. You don't address a cost of living crisis by throwing hard-earned taxpayers' money around. And that's exactly what Albanese is proposing here. We haven't seen any of the details, I should say, and we'll look at those closely as they come in.
Une lueur d'espoir pour le fondateur australien de Wikileaks, Julian Assange, à propos de qui le président américain Joe Biden a fait savoir qu'il réfléchissait à un possible abandon des poursuites à son encontre. Rappelons que les États-Unis souhaitent le traduire en justice pour espionnage et que Julian Assange risque là-bas jusqu'à 175 ans de prison. Anthony Albanese, qui a plusieurs fois plaidé la cause de Julian Assange auprès de Joe Biden, a indiqué que ce changement de posture à Washington était, je cite, « encourageant ». À Bruxelles, le Parlement européen a adopté hier un nouveau pacte sur l'asile et l'immigration, un pacte dont se félicitent les deux pays les plus exposés aux arrivées de migrants par la Méditerranée, l'Italie et la Grèce. Mais ce pacte, parmi les 27, est pourtant loin de faire l'unanimité. Explication du correspondant de RFI à Bruxelles, Pierre Benazet.
Les députés européens ont finalement donné leur feu vert à ce nouveau pacte sur l'asile et la migration, mais c'était de justesse. Il y a eu 10 votes, car cette réforme très complète a été divisée en 10 chapitres. Et sur 2 votes, la majorité a été très courte, une trentaine de voix sur plus de 700 députés. Il faut dire que cette réforme va beaucoup durcir les conditions d'entrée en Europe pour les migrants. Ils étaient 380 000 à entrer illégalement en Europe l'an dernier. Et avec ces nouveaux règlements, les contrôles vont être renforcés. Par exemple, il y aura un fichier pour les empreintes digitales ou encore un renvoi plus facile des migrants vers leur pays d'origine. En échange de ce durcissement, les pays du sud de l'Europe ont obtenu la solidarité, c'est-à-dire que si beaucoup de migrants arrivent en même temps dans un pays, les autres seront obligés d'aider, soit en accueillant des migrants, soit avec de l'argent. Toutes les nouvelles lois vont devoir être approuvées par les 27 pays de l'Union européenne, mais c'est une formalité. Ensuite, ces règlements devront être appliqués 2 ans plus tard. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Au Guatemala, le président vient d'adopter un arrêté de catastrophe naturelle, et ce alors que 44 feux de forêt ravagent actuellement ce petit pays d'Amérique centrale. Les écoles situées dans le centre du pays, le plus exposé à ces feux, ont par ailleurs été fermées pour éviter aux élèves d'inhaler de la fumée. D'après le président Bernardo Arevalo, la plupart de ces feux auraient été déclenchés par la main de l'homme.
It is important to point out that the current situation is not a coincidence, since according to information that the National Coordination for Disaster Reduction has gathered, 80% of the fires have been provoked.
Direction l'Afrique, plus précisément le Mali, où le pouvoir est entre les mains d'une junte militaire depuis le coup d'État du 28 mai 2021. Et les partis et les associations politiques, on vient de l'apprendre, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que vient d'annoncer le gouvernement, qui justifie sa décision par des raisons politiques et sécuritaires. Depuis Dakar, les précisions de Serge Daniel pour RFI.
Lors d'un point de presse, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, a expliqué que la dernière reprise de la ville malienne de Kidal des mains des ex-rebelles, ainsi que d'autres localités, ne signifie pas la fin du terrorisme, la fin des questions de sécurité. Il y a, poursuit-il, d'autres défis sécuritaires à relever, alors qu'au même moment, la classe politique malienne mène, je cite, des débats stériles. Fin de citation. Le ministre fait référence aux voix politiques locales de plus en plus nombreuses et audibles, qui affirment que la période de transition a pris fin depuis le 26 mars dernier et qu'il faut un retour rapide à l'ordre constitutionnel. La junte malienne balaie du revers de la main cet argument et avance une autre raison pour justifier la mesure de suspension des activités des partis et associations politiques. La nécessité, selon elle, d'instaurer un climat de sérénité au moment où un dialogue national intermalien est annoncé pour aborder les problèmes du pays. Serge Daniel, Dakar, RFI.
En France, le président Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui en Dordogne, dans le sud-ouest du pays, pour visiter l'usine d'Eurenco à Bergerac, une usine chimique spécialisée dans la production de poudre. Le chef de l'État doit y poser la première pierre de la future usine du leader européen des explosifs. Il parlera également à cette occasion d'économie de guerre et de souveraineté française en matière de défense. Charlotte Urien-Tomaca pour RFI nous présente les enjeux de ce déplacement.
un déplacement dans un lieu qui n'a pas été choisi au hasard, un site emblématique à la convergence de plusieurs chantiers nationaux, réindustrialisation, économie de guerre, effort d'armement de la France en soutien à l'Ukraine, explique-t-on du côté de l'Élysée. La société Urenco va relancer la production de poudre pour propulser des obus, comme ceux des canons César livrés à l'Ukraine sur son site de Bergerac, avec une nouvelle usine qui verra le jour en 2025. Le président de la République a prévu de visiter les lignes de production existantes avant de se rendre sur le chantier et d'en poser la première pierre. Une séance de travail avec des PDG d'industrie d'armement française est ensuite prévue à l'agenda pour faire le point sur l'état d'avancement des entreprises sur l'économie de guerre et évoquer la suite des transformations à adopter dans le contexte géostratégique actuel. La dernière réunion de ce type remonte au mois de mars 2023. En raison de la forte demande pour la poudre et les explosifs liés notamment à la guerre en Ukraine, l'usine produira 1,2 million de charges modulaires en 2026 contre 500 000 actuellement. Urenco, qui employait 200 personnes en 2022 avant le début de la guerre en Ukraine, devrait passer à 450 personnes à terme qui participeront activement à l'économie de guerre française.
C'était Charlotte Urien-Tomaka pour RFI. Et puis pour conclure ce bulletin d'information, un petit point rapide sur la météo de ce jeudi en Australie. Du soleil à Sydney où il fait 23 degrés, 18 degrés à Melbourne, 29 à Perth, 22 à Adelaide, 27 degrés à Brisbane et jusqu'à 34 degrés aujourd'hui à Darwin.
Journal des sports et on débute avec du football bien entendu et les résultats des quarts de finale de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain qui se retrouve dos au mur après avoir perdu 3-2 sur son terrain donc au Parc des Princes face au Barça, au FC Barcelone. Un match compliqué, un résultat difficile pour les Parisiens mais comme le dit le défenseur parisien Marquinhos, rien n'est perdu, tout est encore à faire, on l'écoute.
Personne n'attendait un match facile. Ceux qui attendaient un match facile, je crois qu'ils ne connaissent pas cette équipe de Barcelone. Alors c'est un match un peu trop ouvert. Ils se sont entraînés de casser cette ligne directement sur Lewandowski. Et ils ont très bien fait. C'est comme ça qu'ils nous ont mis beaucoup en difficulté, je pense. Nous, on a eu des bons moments dans le match, surtout en début de deuxième mi-temps. Je pense que c'est surtout ça là-bas qu'on a notre force. On est parti à la Sociedad et on a cherché ce résultat. Il faut y aller là-bas et faire la même, il faut tout donner. Parce qu'il n'y a pas de choix. Il faut aller là-bas, il faut chercher cette victoire.
Le défenseur parisien Marquinhos, on se souvient de la remontada que les Barcelonais avaient fait sur les Parisiens il y a quelques temps. Donc tout est possible au Barça, même si ça sera difficile dans 15 jours. L'autre match d'hier, c'était l'Atlético de Madrid face au Borussia Dortmund et bien les Madrilènes ont gagné 2-1 avec un Antoine Griezmann étincelant, auteur de plusieurs passes dont une passe décisive. Le Français aura été vraiment un joueur clé de l'attaque madrilène. On fait le point sur les autres matchs de cette Champions League qui avait lieu cette semaine avec Antoine Grenier.
Oui, les Citizens comme les Bavarois venus chercher un nul intéressant à l'extérieur. City qui a mené 3-2 sur un but de Guardiola à 20 minutes de la fin. Mais le Real n'abdique jamais, il l'a montré de nouveau pour égaliser moins de 10 minutes plus tard. Bayern Munich qui lui a concédé le nul 2 buts partout face à Arsenal, des Bavarois qui menaient 2-1 à l'entrée du dernier quart d'heure avant que Leandro Trossard n'égalise pour les Gunners.
Antoine Grenier d'ailleurs, on écoute Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern.
C'était un match très dur parce qu'Arsenal sont très très forts. L'atmosphère était exceptionnelle pour eux, pas pour nous. C'était très difficile de jouer ici. Mais on a eu des difficultés, mais on n'a jamais arrêté de montrer mentalité et un effort collectif. C'est d'accord, c'est un 2-2. La situation maintenant pour la semaine prochaine est très claire.
Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern. Voilà, c'est tout pour le football. On va faire un mot, eh bien, une fois n'est pas coutume, de monter à la corde. Et oui, le record du monde de la montée à la corde a été battu hier par une Française, Anouk Garnier. Elle a mis tout petit peu plus d'une demi-heure pour franchir les 110 mètres de montée à la corde de la Tour Eiffel. Vous l'avez bien entendu, oui, jusqu'au milieu de la Tour Eiffel. On écoute le reportage sur place de Valentin Hugues.
Une Tour Eiffel ensoleillée, à mi-hauteur, une silhouette agrippée à une corde. Avec son téléphone, Mamat immortalise l'instant. Ce touriste turc n'en croit pas ses yeux.
Grimper aussi haut, plus de 100 mètres, c'est incroyable. Sur la tour Eiffel en plus. En fait, ce sont nos fils qui l'ont vu. Ils nous ont dit, regardez, moi j'ai d'abord cru que c'était un ouvrier qui faisait des travaux. Et ma femme m'a dit, je crois bien que c'est une tentative du record du monde.
La famille de vacanciers vient effectivement de vivre un record du monde. 110 mètres de corde montés à la force des bras et des jambes. Lunettes de soleil sur le nez, Alexandre est venu spécialement pour l'occasion. Et pour lui, cet exploit, c'est un bon signe avant les JO cet été.
Surtout que là, il y a quand même des tensions avec le terrorisme. Ça fait du bien de voir ça, de dire qu'il y a des choses comme ça qui puissent être organisées, qu'il n'y a aucun problème. Et ça met le sport un petit peu au centre de Paris, qui va devenir le véritable centre en juillet. Donc c'est bien.
Ce mois de juillet sportif, Solène, 22 ans, y pense déjà.
Sur le Champ de Mars, il y aura des épreuves.
Et ce matin, elle est venue voir la prouesse avant d'aller en cours.
C'est une super image avec la Tour Eiffel qui est en plus sur les médailles et tout. Elle est un peu au centre des Jeux. Donc.
La Tour Eiffel au centre des JO. Et oui, dans quelques jours, les anneaux olympiques seront installés sur la Dame de Fer.
Voilà donc Valentin Hugues avec cette belle carte postale parisienne en ce journal des sports. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS, bien entendu.
h 17 minutes. Vous êtes sur SBS, c'est l'émission en français. Et tout de suite, on va retrouver Nicolas Perpich et Christophe Mallet pour le journal de l'économie en Australie. Ils nous expliquent à quelle sauce vont être mangés les leaders australiens de la grande distribution.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et comme chaque semaine, on va détailler l'actualité économique avec notre spécialiste de la question, Nicolas Perpich. Salut Nicolas.
Salut Christophe.
Alors on va parler de nos vieux amis. Alors pendant un moment, c'était les banques. Là maintenant, c'est de plus en plus les supermarchés. La notion de monopole hein, des grands supermarchés qui pourraient bientôt être pénalisés pour simplement bien, leur relation plutôt nauséabonde avec les fermiers et les autres fournisseurs. Éclaircissez-nous sur cette question.
Voilà. Donc, il y a eu une enquête qui a été menée par un ancien ministre du Parti travailliste, Craig Emerson, qui était quelqu'un de très connu. C'était aussi c'est toujours un économiste. Et donc, c'est lui qui a mené l'enquête sur les supermarchés, donc principalement sur Coles et Woolworths, parce que, comme on le sait, l'Australie a un système très, très concentré. Coles et Woolworths, ils ont 2/3 du marché entier. Après ça, il y en a d'autres, il y a IGA, il y a d'autres petits, mais principalement c'est eux qui ont le pouvoir. On a déjà parlé de comment ils peuvent influencer les prix, qu'il y a des fermiers qui souffrent, c'est très difficile.
Il y en a beaucoup, juste pour vous interrompre, il y a beaucoup qui disent que Aldi est un vrai concurrent, mais quand on regarde sur l'Australie entière, Aldi n'a que 10% du marché. Ça reste une part infime en fait.
Ouais, voilà. Donc Aldi, ils sont très bien. Il y a pas mal de pubs, etc. Donc on pense qu'il y a une plus grande présence, mais vraiment il y en a pas tellement de supermarchés d'Aldi non plus ici. Et donc là, Dr Emerson a examiné si les lignes directrices autour de Coles et Woolworths, donc les règles d'opération, comment les règles qui doivent suivre dans le marché sont suffisamment strictes. Est-ce que ça marche? Parce que en fait, ces règles, c'est pas vraiment des lois, mais ces lignes de direction avaient été créées par les supermarchés eux-mêmes. Donc c'est eux qui avaient écrit ce qu'ils devaient faire et pas faire. Et c'est volontaire. Il n'y a pas de pénalité. Donc là, Dr Emerson a dit que ça devrait pas être volontaire d'abord, ça devrait être obligatoire et il devrait avoir des pénalités financières et des pénalités potentiellement très très sévères, jusqu'à 10% de leurs revenus. Donc pour Coles et Woolworths qui font des milliards de dollars de revenus, c'est des sommes extraordinaires. Par contre, Dante Hamilton n'était pas du tout d'accord avec l'idée que le gouvernement pourrait forcer la vente de certaines parties ou certains magasins de Coles et Woolworths. Il pense que ça ne marcherait pas du tout non plus, parce que ce serait pas facile d'abord pour trouver quelqu'un pour les racheter. Il n'y a personne vraiment d'autre, sauf peut-être l'autre. Si on oblige Coles à vendre une partie de son business, ce serait peut-être Woolworths qui va la racheter. Et donc, dans ce cas-là, il y aurait encore moins de diversité. Ou l'autre possibilité, c'est que tout simplement, il n'y a pas d'acheteur. Donc, pour le consommateur, ça veut dire qu'il y aurait moins de magasins, moins de supermarchés dans leurs endroits. Donc, ils ne pensent pas vraiment que c'est une bonne idée. Par contre, ils pensent qu'il faut être plus strict, plus sévère avec eux pour qu'il y a des vraies conséquences pour Coles et Woolworths quand ils agissent d'une façon pas tout à fait honnête. Et pour leur part, les deux grands supermarchés ont dit qu'ils sont prêts à travailler avec les gouvernements pour vraiment développer des nouvelles lignes directrices. Parce que en fait, là, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le faire. Déjà, ils vont être soulagés que le gouvernement ne va pas les obliger à vendre une partie de leur business. Donc, pour eux, de dire qu'ils sont contents de travailler pour changer complètement ces lignes de direction, c'est beaucoup plus facile. Bah. Mais c'est sûr que maintenant, il y aura plus de surveillance.
Ouais, c'est vrai qu'il faut dire que, faut rappeler que c'est vrai que quand on y réfléchit, les supermarchés, on fait tous un peu nos courses dans un supermarché à un moment ou un autre, hein, qu'on le veuille ou non. Et en fait, le supermarché, c'est là où on voit que le coût de la vie a augmenté. On le voit aussi ailleurs, mais le supermarché, c'est semaine après semaine, on voit que le coût des denrées qu'on achète, parce qu'on achète à peu près tout le temps la même chose, on voit le coût augmenter. Et ce que vous nous dites là, c'est aussi surtout la relation avec les fermiers. Donc on parle des produits frais qui fluctuent. Donc c'est vrai qu'il y a eu l'excuse du Covid, entre guillemets excuse, il y a eu l'excuse du fait qu'il n'y avait pas assez de backpackers. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ces excuses-là et les prix, ils descendent pas en fait.
Non, mais c'est ça le problème quand on a la plupart du pouvoir, c'est avec deux grandes compagnies, c'est qu'ils peuvent plus ou moins dire et faire ce qu'ils veulent. Ils ont tellement de pouvoir. Les fermiers, les autres fournisseurs, ils n'ont pas d'autre choix. Comme on vient de dire, Aldi c'est 10%, c'est rien. IGA c'est pas beaucoup. Donc s'ils vendent pas à Coles et Woolworths, à qui ils vendent? Donc c'est pour ça que c'est tellement compliqué, ils ont tellement trop de pouvoir. Donc c'est pas une monopolie, mais c'est une duopolie.
Ouais, tout à fait.
Donc il y a tous les problèmes classiques d'une duopolie.
Voilà. Bon, on prend des leçons d'économie en même temps. C'est ça qui est bien. Allez, on va parler d'une autre petite histoire qui est assez sympathique, mais le coût de la vie n'est pas le même pour tout le monde. le poulain, le cheval fameux de course, hein, Winx, vendu pour une somme astronomique.
Astronomique, donc 10 millions de dollars. On ne s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on voit un poulain vendu pour tant d'argent. Donc 18 mois, ce cheval. Donc la vente aux enchères, ça a commencé à 2 millions. Ça a monté, c'est monté très 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 vite. Il y avait de l'intérêt international, des gens qui voulaient l'acheter d'ailleurs. Mais en fait, ça a été vendu à quelqu'un qui s'appelle Debbie Kepitis, parce que elle était l'ancienne propriétaire de Winx. Pas le seul propriétaire, elle c'était avec d'autres personnes, mais c'était une des familles à qui appartenait Winx, qui était bien sûr un des plus grands cheval qu'on n'a jamais vu ici en Australie, qui a gagné 33 courses de suite, ce qui était extraordinaire, qui a gagné 26 millions de dollars en prix avant sa retraite en 2019. Alors avant la vente du poulain de Winx, le record c'était 2,6 millions de dollars. Donc là on voit 10 millions, c'est vraiment énorme parce qu'il y a tellement de potentiel pour ce cheval, après le record de Winx. Donc voilà.
Winx c'est son papa. Winx étant le papa de ce poulain.
Voilà, exactement. Comme tu viens de dire, c'est les problèmes de du coût de la vie dans les supermarchés, c'est pas vraiment un problème pour tout le monde. On peut payer 10 millions de dollars pour un cheval.
Oui, tout à fait. Ce poulain, c'est le nouveau Farlap. On peut déjà le dire ou c'est, on
pas encore,
espère
pas encore. Pas encore. Pas encore. Il y a même pas. Le poulain n'a même pas encore été entraîné.
D'accord.
Il faudra attendre quelques années encore.
D'accord.
Mais ça va être vraiment intéressant.
On l'appellera le Mbappé de l'équitation quand il aura fait sa preuve, c'est ça?
On espère. Je crois qu'avec 10 millions de dollars, il espère que ça sera le Messi.
Voilà, tout à fait.
Ouais.
Merci Nicolas.
Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Ciao.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Mardi, lors de notre précédente émission, nous avions écouté la première partie d'un échange passionnant entre notre collègue Bertrand Tungandamé et la journaliste britannique Michaela Wrong sur le génocide rwandais. Je vous propose maintenant d'écouter la seconde partie de cet entretien qui s'intéresse plus spécifiquement à l'évolution des relations qui par le passé ont été très tendues entre Paris et Kigali, mais aussi à l'exportation de ce conflit dans le pays voisin, la République démocratique du Congo, où 30 ans après, les affrontements et les massacres se poursuivent.
Et justement, quel regard portez-vous aux relations entre Paris et Kigali aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on a connu dans les années 90, des tensions, et aujourd'hui une apparence de réchauffement entre les deux capitales?
Je vois que la France vient d'annoncer 400 millions d'euros, un accord, un soutien pour le Rwanda, qui est énorme comme somme. Et je vois aussi que Macron va donner, il va faire tout un discours aujourd'hui sur le rôle de la France, sur la culpabilité de la France. Et je trouve la position de Paris et la France sur le génocide au Rwanda, c'est assez bizarre. Moi, je suis complètement d'accord qu'il faut, et c'est bien que la France se pose des questions sur son passé colonial, comme nous on fait ça ici en Angleterre, qu'on accepte qu'on a commis des erreurs et qu'il y a un compte rendu français sur son passé. Mais c'est très bizarre que on voit que en essayant de faire cela, on devient très 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 amis, allié avec un nouveau homme fort, un nouveau dictateur en Afrique. Alors la France, elle s'excuse, elle s'accuse d'avoir soutenu Juvenal Habyarimana et un système génocidaire. Et oui, et c'est vrai qu'on a soutenu cet régime, et on a aidé avec Opération Turquoise, on a aidé les génocidaires, le fonctionnaire de Habyarimana qui avait des sangs sous les mains de fuir le pays, et après ils se sont hébergés en France et on les a protégés. Qu'on s'excuse, c'est bien, mais pourquoi commettre la même erreur avec Kagame? Selon moi, c'est ce que la France est en train de faire. Ils ont décidé que Kagame, c'est l'homme fort de l'Afrique qu'ils veulent comme allié. Ils sont très reconnaissants parce que Kagame a envoyé des troupes en Mozambique où il y a cette installation très importante de gaz
du
Total. Alors, ils ont décidé qu'ils vont tourner, ils vont pas voir, ils vont pas regarder les crimes commis par Kagame, son soutien pour le mouvement 23 au Congo, la répression au Rwanda, le fait que toutes les élections sont truquées, que tous les journalistes qui essayent d'écrire des choses franches et honnêtes sont en prison, qu'en plus, Kagame, dès qu'il pense qu'il y a un rival potentiel à l'étranger, il envoie ses agents pour essayer de les tuer. Et on accepte tout ça à Paris. Tout est accepté. On dit rien parce que c'est le nouveau allié de la France. Et c'est exactement la même erreur qu'ils ont commis avec Habyarimana et avec Mobutu qu'ils soutenaient aussi. Et je trouve que c'est une politique qui est énormément cynique, mais aussi que c'est en même temps cynique et naïf. Parce qu'on a vu que ça s'est pas bien passé avec le Zaïre, ça s'est pas bien passé avec le Rwanda. Ils sont là maintenant à demander des excuses de tout le monde pour ce qu'ils ont fait dans ces deux pays. Et en même temps, ils sont en train de répéter exactement le même erreur.
Si je comprends bien, il y a un certain renversement des rôles. Les États-Unis avaient été des soutiens quasi inconditionnels de Kagame, surtout Bill Clinton. Et aujourd'hui, donc, vous nous parlez d'une certaine tiédeur des relations entre Kigali et Washington. Quel regard portez-vous sur cette tiédeur et ce refroidissement des relations entre Kigali et Washington?
Oui, il devient de plus en plus froid. Je pense que c'est effectivement parce qu'il regarde de loin le rôle que Kagame joue dans les Grands Lacs. Et il voit que il y a toutes ces opérations, ces interventions militaires que Kagame a menées au Congo, aussi son ingérence dans le Burundi, les relations très tendues avec l'Ouganda. Il voit que c'est un monsieur qui se présente comme l'homme de la paix, mais effectivement, c'est l'homme qui mène des problèmes. Le Congo, c'est un pays absolument énorme avec une grosse population. Et je pense que les Américains, ils se posent la question pourquoi on va avoir cet allié, soi-disant un allié, un partenaire déstabilisé en continuation ce pays géant qui, pour nous, est beaucoup plus important. Et en plus, on risque de lancer une guerre dans les Kivus qui peut impliquer toute la région. On n'a pas besoin de ce type de problème. Et ils voient pour eux, c'est de plus en plus plus clair que le problème, c'est vraiment le problème, c'est Kagame.
Et ça nous permet de revenir encore aux commémorations du 30e anniversaire du génocide de ces prochains jours à Canberra, parce que l'événement ne se limitera pas seulement au génocide, parce qu'ils vont voir aussi les victimes post-génocide, le massacre des Hutus notamment au Congo, et des tueries et des massacres des milliers de victimes congolaises. Selon des experts, il y aurait même eu beaucoup plus de morts au Congo que pendant le génocide rwandais. Quel regard portez-vous sur cet aspect-là de reconnaître toutes les victimes, y compris les victimes hutues et congolaises, corollaires au génocide rwandais?
Bon, effectivement, le docteur Denis Mukwege, congolais, qui on a donné le prix Nobel de la paix plusieurs fois, bon, tout le temps, il est là à dire en public, c'est où la justice? Parce qu'on a établi un tribunal à Arusha en Tanzanie pour juger les génocidaires. Maintenant c'est fermé, c'est terminé. Mais où et quand est-ce qu'on voit la justice pour les tueries qui ont eu lieu dans les forêts du Congo? Et on sait bien que c'est l'AFDL, le groupe rebelle qui était fondé par le Rwanda et aussi l'armée rwandaise. Qui ont tué des dizaines de milliers de Hutus déplacés. Et oui, peut-être il y avait des soldats, des anciens soldats de Habyarimana et aussi les membres de Interahamwe parmi eux, mais il y avait aussi beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de vieilles personnes et beaucoup de civils. Et il n'y a jamais eu de justice pour cela. Et aujourd'hui, on voit que tous les gens sont là à Kigali pour parler du génocide, pour exprimer leurs regrets. mais on n'a rien fait pour rendre justice aux victimes, à ces victimes-là dans les forêts du Congo.
Et ça continue, il y a beaucoup d'autres qui sont encore là, et avec la résurgence du M23, les tueries, les crimes, les meurtres, les abominations en tout genre, c'est poursuivre. Et nous y reviendrons dans notre prochaine conversation quand même sur le M23, parce que le parcours du M23 rappelle énormément le trajet du FPR, sa trajectoire vers la victoire. On se souvient que pendant la guerre, ils revenaient au Rwanda, ils étaient repoussés vers la frontière, ils se regroupaient en Ouganda, ils revenaient, et ainsi de suite. C'est le même parcours que le M23 qui a été défait en 2013. Ils se sont exilés entre guillemets au Rwanda et en Ouganda pour revenir encore plus fort qu'auparavant 10 ans plus tard, alors que les deux pays, Ouganda et Rwanda, auraient dû en guise de bonnes relations avec de bons voisinages avec le Congo, auraient dû suspendre et dispendre ce mouvement, mais ils l'ont gardé en veilleuse pour le réactiver au moment voulu. Mais nous y reviendrons dans quelques jours. Mais pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle de la vérité, de la guérison et de la réconciliation dans le processus de commémoration du génocide rwandais?
Bon, je ne suis pas un expert, mais je pense que pour avoir une réconciliation, une vraie réconciliation, il faut avoir un certain niveau de honnêteté et de transparence. Et ce que je vois, c'est que dès qu'on commence à donner une vision un peu plus large sur ce qui se passe, s'est passé au Rwanda, et par exemple moi, comme écrivaine, comme journaliste, dès que je parle un peu de ce qui s'est passé entre 90 et 94, pendant que le FPR, après que le FPR a envahi le Rwanda. Et on sait qu'il y a eu des tueries au nord, dans toute la région que le FPR contrôlait. Et dès qu'on parle de ça, ou on parle du Gersony Report, ce rapport écrit par un enquêteur des droits de l'homme spécialiste américain, qui a bien établi que le FPR était en train de tuer en masse des Hutus au sud-est du pays. Et dès qu'on parle de ce qui s'est passé au Congo, on se fait accuser d'être un
négationniste.
Genocide denier. Et ça, c'est une accusation très, très grave. Et on le lance tout de suite, mais, sans y penser. Et comme j'ai dit dans mon livre, moi, j'étais un des journalistes qui ont fait on a fait des reportages sur le génocide. Moi, j'étais dans cette église où il y avait des tas de corps. Je suis parmi les journalistes, les médias qui a beaucoup parlé des tueries de 94. Alors, lancer cette accusation contre des personnes comme moi, ça montre à quel niveau le régime, la propagande officielle, on respecte rien du tout. On utilise cette accusation pour faire taire les gens qui osent critiquer le gouvernement et les gens qui osent dire oui, mais il faut avoir un certain équilibre dans le discours pour voir un peu de guérison. Il faut avoir un niveau d'honnêteté.
Ouais, et avoir une certaine hauteur par rapport aux événements, surtout vous qui n'êtes pas impliqué, vous êtes une ressortissante britannique, vous travaillez pour des organismes internationaux, des organes internationaux, et on vous accuse quand même de complicité.
Oui, à l'époque en 94, j'étais pigiste pour BBC et l'agence Reuters. Après, j'ai beaucoup écrit parce qu'il y avait toute l'époque avec la FL et la chute de Mobutu. Ouais. J'étais correspondant pour le Financial Times. Et maintenant, j'ai écrit 5 livres sur l'Afrique. Et j'ai beaucoup écrit sur le Kenya, sur l'Érythrée, sur le Congo. Et dès qu'on ose dire quelque chose qui est un peu critique à l'égard du gouvernement à Kigali, tout de suite, on devient un criminel, soi-disant, et on se fait accuser de toutes sortes de crimes affreux, horribles, parce que on n'accepte pas une discussion, un débat plus honnête.
Michael Arong, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous consacrer quelques instants pour discuter de ces événements J'espère que nous allons pouvoir continuer cette conversation lors de votre prochain séjour en Australie. Et à très bientôt.
Ok, avec plaisir.
Billy, c'est le titre de ce morceau très langoureux de la chanteuse Amway. On va maintenant retrouver Christophe Mallet qui a rencontré la chef du restaurant Philippe à Melbourne, Sonia Bichet. Elle est aussi meilleure ouvrière de France.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, dans les entrailles du restaurant Philippe à Melbourne, on est avec une des meilleures ouvrières de France, Sonia Bichet. Bonjour.
Bonjour.
Déjà, on dit ouvrier de France, on ne dit pas ouvrière de France. C'est encore une de ces particularités de la langue française.
C'est exactement ça, mais on peut dire les deux. Mais meilleur ouvrier, ça ne me dérange pas du tout parce qu'on, de toute façon, on est égal aux hommes. Donc,
Voilà, y a un beau col bleu-blanc-rouge sur votre blouse. Vous êtes reconnue dans le monde de la restauration, surtout pour ce qui est fruits de mer, poissonnerie. Parlez-nous un petit peu de cette passion. Pour une Parisienne, c'est pas forcément, ça coule pas forcément de sauce en fait du coup.
Non, c'est ça, c'est pas dans la Seine que j'ai pêché ma passion.
On l'espère en tout cas.
je suis meilleure ouvrière de France poissonnier et caillé. Et quand j'avais 17 ans, j'étais en terminale S, je devais aller en fac de droit et puis premier petit boulot, la poissonnerie. J'ai jamais arrêté et voilà, ça fait 10 ans maintenant.
Parlez-nous un petit peu du cheminement pour arriver jusqu'à être meilleur ouvrier ou ouvrière de France. On sait que c'est une reconnaissance un peu particulière en France. On sait qu'on a tous ces terroirs qui paraissent peut-être un peu complètement d'une autre planète si on est australien. Mais en France, c'est quelque chose où on est vraiment attaché. Et cette notion d'ouvrier ou d'ouvrière de France, c'est pas un périple, parce qu'on va pas parler de ça de périple, mais c'est compliqué, c'est dur. Mais ce petit col bleu-blanc-rouge, on est fier de le porter. Quand même.
Oui, complètement. Ben, moi, c'était mon rêve. J'ai été meilleure apprentie de France, déjà à 18 ans. Et donc, tout de suite, j'ai voulu être meilleure ouvrière de France. Il faut savoir qu'à l'inscription, il faut avoir 23 ans et que c'est un concours qui a lieu tous les 4 ans. Donc, en fait, il y a 8 ans, quand j'ai voulu m'inscrire, j'étais trop jeune. Donc, on m'a annoncé qu'il fallait que j'attende 8 ans pour pouvoir peut-être faire une finale des meilleurs ouvriers de France. Et c'est simplement se lever tous les matins et faire tout impeccable. Voilà. Être passionnée, écouter les histoires, apprendre la vie des poissons. Et être parfaite tous les jours pendant 8 ans.
Et dès que vous avez eu ce titre, vous vous êtes dit, c'est pas assez, je vais partir faire le tour de la planète, parce que les poissons en France, c'est quelque chose, mais les poissons dans le monde, c'est autre chose, et enfin les poissons et les fruits de mer. Et vous êtes donc dans ce cheminement aujourd'hui. Alors, difficile d'aller beaucoup plus loin dans votre voyage, je crois que vous allez en Nouvelle-Zélande après, mais voilà, on est sur le bout de la Terre, même si elle est ronde. Expliquez-nous un petit peu vos découvertes que vous avez fait en chemin, des choses incroyables, des choses peut-être qui vous ont surpris. Parlez-nous un petit peu, faites-nous rêver un peu avec le poisson.
Ouais, c'est ça. Après, les meilleurs ouvriers de France, c'est une grosse dépression, parce qu'on sait plus trop quoi faire. Je suis assez jeune, donc j'ai décidé de partir voyager. En effet, j'ai fait 11 pays et je pense qu'il y a tellement d'océans, de mers, la pêche aujourd'hui, c'est quand même d'actualité, l'environnement aussi. Donc voilà, j'ai voulu partir découvrir un peu toutes les histoires pour mieux comprendre ce qui se passait sur Terre. Et donc, je me retrouve en Australie aujourd'hui. Et c'est vrai que ce concept de meilleur ouvrier, donc les ouvriers, que ce soit même poissonniers finalement, mais il n'y en a pas partout sur Terre. Et il y en a beaucoup en France, mais même en Australie, où on se rend compte qu'il n'y a pas d'école de poissonnerie, par exemple. Donc, c'est très français.
Parlez-nous un petit peu de cette passion du poisson. Qu'est-ce que vous avez découvert en chemin? Parce qu'il y a des espèces en Australie qu'on n'a pas en France. Il y a des espèces en France qu'on n'a pas forcément en Australie, sauf s'il y a de l'importation, ou ça, c'est autre chose, on peut en parler. Mais cette notion de foyer vivant de poisson qui est tellement différent d'un bout de la planète à l'autre, en fait.
Ah, complètement. Bah, déjà, j'ai commencé même en Islande, beaucoup de poissons séchés. Ici, en Australie, vous êtes un pays qui est un petit peu nouveau, on va dire, comparé à la France où on a quand même un gros terroir, un gros miroir et beaucoup de cultures anciennes. Et du coup, vous avez un travail du poisson qui est très innovant. Nous, en France, on regarde beaucoup ce que les chefs australiens font avec le poisson. Et vous avez beaucoup la maturation. Vous avez, on prend un poisson, on le découpe un peu comme de la viande. Chaque partie est bonne pour quelque chose. Et du coup, c'est super sympa parce que nous, ça nous permet de mettre un peu de nouveau dans nos poissonneries en France.
Et sur les poissons spécifiques, style le barramundi ou des choses comme ça, je sais que ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes arrivé, hein, quelques jours simplement. D'ailleurs, merci de nous accorder cette interview aussitôt depuis votre arrivée. Mais vous avez déjà découvert des choses qui vous titillent un peu les papilles?
Oui, J'ai déjà découvert le maroon, là, les écrevisses que vous avez. Ce soir, on en sert. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Vos huîtres aussi. Voilà. Bon, les huîtres françaises, je suis obligée de dire que c'est les meilleures. Mais vous avez des super huîtres. Et ouais, c'est... Enfin, je pense que je vais avoir plein de découvertes. C'est vrai que je suis arrivée qu'il y a à peine une semaine, donc j'ai pas eu le temps de tout goûter. Mais j'ai hâte de remonter toute la côte australienne pour voir tous vos produits.
Il y a aussi un élément, je pense, qui doit être important pour vous. Il y a le poisson, mais il y a la façon dont on le coupe, la façon dont on le cuisine, la façon dont on met des ingrédients. Si on parle simplement des ingrédients, ici, il y a des choses que vous pouvez pas trouver ailleurs. Des ingrédients plus indigènes, des ingrédients qui peuvent... Aujourd'hui, peut-être, vous n'avez pas encore goûté, mais est-ce que ça vous titille un peu l'esprit aussi et de savoir que vous pouvez travailler avec des herbes un peu différentes, des aromates différentes, des approches complètement différentes à peut-être la base d'une sauce au beurre pour un poisson en France?
Oui, complètement. Et c'est pour ça que dans mon voyage, c'est rempli de rencontres avec des chefs, mais aussi des pêcheurs, des portraits un petit peu atypiques. Et les populations indigènes pour justement comprendre un petit peu et découvrir plein de choses parce qu'en fait, on n'a pas tout en France. Ça, c'est une certitude. Et si on rencontre pas les gens, si on va pas voir les gens et cuisiner avec eux, moi, toute seule, c'est difficile de tout découvrir aussi.
C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est très innovant dans l'approche, parce qu'en France, on va pas se le cacher, hein, vous, on est français, on peut avoir un peu la grosse tête quand on parle de cuisine et de gastronomie, on peut penser tout connaître, mais en fait, le monde est tellement grand que l'Asie a tellement de choses à vous apprendre, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Océanie, l'Afrique, tout ça, c'est des choses qui, vous, dans un coin de votre tête, vous font rêver toujours, et c'est ce qui fuel un petit peu votre voyage.
Ouais, complètement, ça me fait rêver. Après, honnêtement, hein, la cuisine française me
manque. On est les meilleurs quand même.
Ouais, non, ça fait maintenant 7 mois que je suis partie et je rêve de rentrer en France pour manger parce que on a quand même une belle culture. Mais c'est toujours très intéressant de s'ouvrir au monde et j'amène aussi nos connaissances françaises et je prends un peu les touches de tous les pays. On est capable de faire des bourguignons de crevettes, donc. Voilà, on ramène ce côté français, ces sauces françaises, parce qu'on est très fort dans les sauces, et on prend un petit peu les épices de partout, et je pense que c'est l'avenir, ça va être comme ça aussi.
Est-ce que c'est ce qui vous fait rêver, dans le sens où vous faites ce voyage, il n'est pas anodin ce voyage, je pense qu'il y a, vous paraissez être quelqu'un qui a quand même un peu la tête sur les épaules, derrière il y a sûrement une idée d'apprendre encore plus, mais peut-être d'en faire plus un métier. Est-ce que vous pensez que vous calez, vous êtes jeune encore, je vais être galant, je vais pas vous montrer votre âge, mais vous êtes largement plus jeune que moi. Mais est-ce que ça veut dire que vous, dans votre objectif de travail pour l'avenir, vous voulez plus vous axer sur le voyage ou plutôt faire découvrir aux Français cette notion de la planète qui est peut-être un petit peu différente que la notion franco-française de l'Hexagone?
C'est une très bonne question. Tout change un peu avec le voyage, mais en fait, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est que nous, les Français, on est très fiers de notre terroir. On mange français. On devrait manger d'ailleurs un peu plus français en ce moment, mais on mange français, on a une belle agriculture. Et je pense que mon but, c'est de continuer le voyage, mais de faire comprendre aux gens qu'il faut manger les produits de chez eux. Voilà. Aller au Québec et... Enfin, l'import-export, c'est très bien, mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui exportent tout pour importer d'autres produits. Et mon but, ça serait d'arriver à rendre un peu fier tous les voyages que j'ai faits, toutes ces personnes, de raconter les histoires des pêcheurs et cette fierté française, d'en faire une fierté québécoise, d'en faire une fierté australienne. Et il faut manger les produits de chez soi et il faut écouter les histoires des pêcheurs, des cuisiniers, des agriculteurs. Parce que, mine de rien, c'est la vie, en fait.
Donc, ça veut dire que le Barramundi, on se le garde.
Vous pouvez vous le garder. On a du bar.
Si on parle simplement, justement, de cette mondialisation, vous êtes encore une fois assez jeune, mais cette mondialisation, nous, on l'a vu grandir et grandir et grandir. Vous êtes peut-être probablement né avec, mais ça vous fait quoi de penser que aujourd'hui, on peut manger du poisson qui vient de partout dans le monde, qui a été congelé sur place, ou en fait, sur le bateau, et qu'en fait, il peut être pêché un jour quelque part, et vendu le jour 22 ailleurs, à un autre bout de la planète? Pour vous, ça vous... Enfin, vous trouvez que c'est une folie douce, c'est quoi?
Mais en fait, je sais pas, parce qu'il faudrait se remettre il y a 40 ans, comme nos grands-parents pensaient. Moi, aujourd'hui, je me permets quand même de faire un voyage, de prendre l'avion pour aller découvrir les produits, mais parce qu'on peut le faire. Il faut savoir qu'il y a 40 ans, peut-être que ramener un produit exotique quelque part, ça émerveillait. Donc, tant que c'est de l'émerveillement, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une industrie complète et qu'on importe énormément pour exporter énormément. Après, est-ce que je suis la meilleure personne pour juger tout ça? Je ne sais pas, parce que je voyage. Mais on ne pourra pas changer les choses, on peut essayer de les améliorer. Et voilà, il faut manger, il faut soutenir les gens qui sont autour de nous. Mais l'émerveillement, entre guillemets, de découvrir un produit, c'est toujours chouette. Il y a des magnifiques produits partout. Donc C'est une question un petit peu délicate.
Ah, c'était pas une question pêche. J'ai vu que ce matin, vous êtes allé avec Gabriel Gatté et Philippe, d'ailleurs, je crois. Vous êtes allé visiter certains marchés, enfin, l'importance du marché aux poissons, dans le sens noble du terme, dans un pays comme, on va se focaliser sur l'Australie, hein, l'Australie. Je vais pas demander de comparer avec le mine de Rungis, parce que le mine de Rungis, c'est peut-être un des meilleurs marchés au monde, enfin, je le suppose. Aujourd'hui, vous avez découvert quoi sur un marché comme celui que vous avez pu visiter? On sait que Sydney, par exemple, vous allez découvrir également d'autres choses, que c'est un énorme marché aux poissons. C'est marché dans la chaîne, entre guillemets, alimentaire.
Honnêtement, moi, mon école de poissonnerie était dans le marché de Rungis. Donc, j'ai grandi dans le marché de Rungis. Et là où j'ai été très contente hier, c'est parce que le marché de Melbourne, honnêtement, il est super. Il est propre, c'est organisé, c'est joli. Les poissons sont là. C'est un petit marché de Rungis. Honnêtement, il n'y a pas envie à Rungis. Alors, Rungis, c'est le plus grand marché d'Europe. C'est sûr qu'on a beaucoup plus de poissons, entre guillemets. Mais c'était super, super visite.
Sur la qualité des produits, je crois que vous avez goûté des huîtres un peu tôt. Mais vous avez de l'habitude, je pense. Mais vous parliez des huîtres, les huîtres, ouais. Les moules. Enfin, c'est toute cette base de fruits de mer aussi à l'australienne. Plutôt thumbs up, comme on dit, ou thumbs down?
Non, c'est top. Ouais, alors déjà, les huîtres le matin, je le conseille à tout le monde. Ça, c'est top.
Carrément, là, faut y aller.
Deux huîtres le matin à 6h, je vous jure, votre journée est meilleure. En plus, c'est très bon pour la santé. Le poisson est de très bonne qualité. Il est là. Je pense que comparé à la France, en France, on a énormément de poissons de petite pêche pêchés à la ligne. Ici, j'en ai vu un petit peu moins. Après, encore une fois, vous êtes un pays en plein développement. Il faut savoir quand même que l'Australie, j'ai appris aussi que l'Europe rentrait dans l'Australie. Donc, c'est sûr qu'un poisson qui est pêché à Sydney, bah, pour le ramener à Melbourne, voilà, il y a des choses à améliorer, mais par contre, la qualité, elle était quand même là. Et c'était top.
Dernière question, mais la rencontre avec le public australien, comment ça s'est passé? Vous avez déjà fait plusieurs services, il y a des services qui ont été à venir. Comment ça se déroule? Comment vous vous sentez par rapport à ça, à cette rencontre?
Ben moi, je trouve que les Australiens sont très, comment dire, souriants. Ça change un peu des Parisiens. Donc ça se passe super bien. Je suis super contente d'être là et je pense qu'ils sont contents aussi de me voir. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à. En tout cas, ce soir, il n'y a plus qu'à que tout le monde prenne plaisir. Je pense que c'est essentiel.
Merci, bon courage. Et puis, bon vent pour votre voyage.
Merci beaucoup.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Oh, j'aime. Ah, j'aime tes genoux. Ça, j'adore tes genoux. Ah oui, j'aime tes genoux, le reste je m'en fous.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui et on se quitte sur cette reprise de la chanson Shame on You du groupe Shirley & Co. par l'immense Henri Salvador qui, dans sa version française, a renommé ce morceau J'aime tes genoux. Nous, à SBS, ce qu'on préfère, ce sont vos oreilles et je tiens donc à vous remercier de nous avoir écoutés et plus encore pour votre fidélité. Prochaine émission, ce sera samedi à 13h précise. Elle sera préparée par l'excellent Christophe Mallet. Passez un excellent après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.